Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Permettre aux investissements de favoriser une société plus juste, plus verte et plus solidaire en regroupant l'épargne, tel est le rôle de la Caisse d'économie solidaire. Nous recevons cette semaine celui qui en dirige le développement stratégique, Martin-Pierre Nombré. Bonjour à vous.
Oui, bonjour Armand.
Vous avez passé une bonne semaine?
Oui, oui. Tout à fait.
Vous n'avez pas trop pelleté? Vous vous êtes pas trop ennuyé de l'Afrique?
Non. Je commence à être habitué.
Oui, c'est ça. D'autant que ça fait presque quoi? Maintenant 30 ans que vous êtes ici.
Oui, j'ai vécu plus longtemps ici qu'en Afrique maintenant.
Donc, oui. Et il faut le dire, votre conjointe, parce qu'on parlait de caisse d'économie solidaire, votre conjointe est aussi dans le développement
à Oxfam.
Elle dirige Oxfam Québec. Oui. Elle a visité et elle s'est impliquée dans plusieurs projets internationaux sur à peu près tous les continents.
À peu près, oui.
C'est dans votre nature, c'est dans vos gènes que tout cela.
Oui. Voilà pourquoi je dis, à partir du moment où tu embrasses ça, c'est difficile de s'en sortir. Ça t'interpelle de partout. On est obligé de le faire, je dirais pas par nécessité, mais ça fait partie de notre vie.
Les gens ont trouvé très intéressant ce que vous racontiez sur le pays. Alors, on va poursuivre cette semaine sur le Burkina Faso, si vous voulez bien. On va parler de Thomas Sankara.
Okay.
On a dit la semaine dernière qu'il avait pris le pouvoir le 4 août 1983. Il a effectué un putsch et instauré le Conseil national de la Révolution, qui était d'orientation marxiste. Il a rebaptisé son pays, qui était la Haute-Volta en Burkina Faso. Et surtout, son gouvernement voulait défendre la transformation de l'administration et redistribuer la richesse. Mais à cette époque, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec la vision de ce président.
Comme je dis, moi, je faisais partie aussi d'un autre groupe de gauche. Et puis, c'est sûr que, veux pas, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs, les groupuscules de gauche ne s'entendaient pas nécessairement sur comment prendre le pouvoir et qui allait gérer le pouvoir. Donc, ceux qui se sont joints à Thomas Sankara ont voulu faire la guerre, bien sûr, à ceux qui étaient du parti communiste révolutionnaire du Voltaïque. Donc, certains ont joint Sankara, certains ne l'ont pas fait.
Il a quand même atteint certains objectifs, parce que trois ans plus tard, en 86, l'objectif d'avoir 2 repas et 10 litres d'eau par jour par personne était atteint, dit-on, au Burkina. Il a été très soucieux d'environnement. Il a lancé, dit-on, 3 luttes. La fin des coupes de bois abusives, la fin des feux de brousse, et aussi, on dit, la fin de la divagation des animaux. Il y a un mais.
En fait, c'est sûr que quand tu prends le Burkina Faso, il y a plein de choses qui sont ancrées depuis très longtemps. Dans 3-4 ans, on ne peut pas les transformer. Ça, c'est mon point de vue. Donc, dire que tout ça, ça a disparu, c'est pas vrai. Ça peut pas disparaître et revenir. Oui, il y a eu beaucoup de discours là-dessus, de la sensibilisation autour de ça. Les actions n'ont pas été tel qu'aujourd'hui, on peut dire que ça a disparu, toutes ces choses-là. Cependant, Sankara avait un discours très, très progressiste, que ce soit par rapport aux femmes, que ce soit par rapport à la consommation locale dont nous parlons ici.
Que et même ce soit au plan de l'environnement.
Au plan de l'environnement aussi. Il a fait planter, il y avait l'opération de plantation d'arbres, l'autodéveloppement, l'autofinancement du développement, etc. Donc, toutes ces idées étaient des belles idées. Cependant, nous, ce qu'on a toujours reproché, c'était fait avec force, c'était fait avec de la coercition. Donc là-dessus, je n'en démords pas, je dirais. Ça, c'est le côté qui blessait le plus.
Rappelez-moi certaines anecdotes que vous avez vécues. À ce moment-là, vous étiez étudiant et vous vous opposiez évidemment au régime. Vous avez mis à quelques reprises votre vie en danger.
Ben, je vous donne un exemple très simple. Nous, comme étudiants, on avait la chance que l'État nous donnait un certain pécule pour pouvoir étudier. À un moment donné, on nous oblige à donner un mois de pécule sans beaucoup d'explications. On nous dit seulement le pécule est coupé et puis c'est comme ça, c'est comme ça. Mais pendant ce mois, qu'est-ce que tu fais comme étudiant? Tu ne sais pas. Donc, on va pour une assemblée générale au palais du peuple, comme on l'appelait, et la salle était pleine. Tous ceux qui ont pris la parole pour aller contre le fait de couper ce pécule ont été arrêtés avec des militaires, des étudiants qui avaient des kalachnikovs en main, des pistolets et tout. Donc, on a été arrêtés et puis manœuvrés, comme ils disent, parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer pendant cette période-là.
En d'autres termes, vous auriez pu être, comme on dit, liquidé.
Ben, tout à fait. Et ce n'est pas la seule occasion. Il y a eu plusieurs occasions où tous ceux qui sortaient du Burkina étaient arrêtés à l'aéroport et transférés donc dans le sous-sol de la sûreté, comme on dit, et puis manœuvrés, et certains sont morts.
On va enchaîner parce qu'encore une fois cette semaine, beaucoup de musique africaine, fidèle aussi aux propos que vous tenez. La première pièce que vous nous proposez a pour titre...
Assi Bonanga, c'est Mandela. C'est Johnny Clegg qui propose donc cette chanson avec Savuka. C'est sûr que ça rend hommage à Nelson Mandela qui a été en prison pendant plusieurs années, vous le savez. Et quand il est ressorti, il a même pardonné à tous ses geôliers et il a voulu avoir un pays arc-en-ciel où il y avait l'harmonie là-dedans qu'il cherchait à voir, ce qui est quand même très, très, je dirais, louable, surtout avec tout ce qu'il a vécu. La paix qu'on a, la paix chérie qu'on a. Assi Bonanga, Assi Bonanga, Mandela tienda, la paix qu'on a. La paix félicite qu'on a. All the sea is gold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day. Cross the burning water.
Victoria Mtenge, Assi Bonanga, Assi Bonanga, Jaji wetu, La Pekona, La Wafela Kona. Dr. Neil Agate and all the others,
Simbonanga, et c'était le groupe Savuka et Johnny Clegg. Histoire de vous mentionner qu'en 1997, à la fin d'un concert à Francfort, où le groupe Savuka et Johnny Clegg interprétaient cette chanson, à la grande surprise, Nelson Mandela se retrouvait là-bas, en
sur
Allemagne.
La scène, oui.
Oui, et il est monté sur scène, effectivement. Il a interprété même quelques pas de danse à la surprise de tout le monde. Ça fut une belle surprise et cette chanson est devenue comme une chanson emblématique à l'égard de Mandela. Revenons au Burkina Faso. Donc, vous mentionniez que ça n'a pas été facile. Il faut dire que si on avance dans le temps, Sankara a été lui-même renversé. Par le capitaine Blaise Compaoré. Et ça, c'était survenu en octobre 87, exact?
15 octobre 87, oui.
Et on dit, ça n'a jamais été prouvé, mais semble-t-il qu'il aurait fait assassiner Thomas Sankara.
Bien, c'est clair qu'il l'a fait assassiner. C'est... tu ne peux pas avoir vécu avec lui pendant longtemps et ne pas savoir ce qui se passe entre vous.
Oui, parce qu'il était un adjoint.
Ben oui, c'était même, il s'appelait, c'était des frères d'armes, des frères qui devaient se partager presque tout. Donc, la soif du pouvoir a fait en sorte que Blaise Compaoré a renversé son frère, si on peut l'appeler comme ça.
Et là, il a été très présent, il a été réélu en 98, en 2005, en 2010. Est-ce qu'il a laissé une marque importante à ce pays?
La marque que Blaise a laissée, je dirais, c'est une décrépitude donc, du pays. On ne peut plus appeler le Burkina aujourd'hui le pays de l'homme intègre. Tout ce que Sankara avait essayé de mettre en place, la sobriété d'abord au niveau des dépenses de l'État. Sankara avait par exemple des voitures de ministres qui étaient des R5, des petites voitures, l'équivalent de Yaris si je peux l'appeler aujourd'hui.
Oui.
Donc les salaires étaient plafonnés pour les ministres, la corruption avait disparu. Tout ça s'est revenu avec beaucoup de force et je dirais... C'est l'héritage, je dirais, que Blaise Compaoré nous laisse aujourd'hui. Bon, c'est sûr qu'il a été impliqué aussi dans plusieurs types de magouilles au niveau de la sous-région, que ce soit dans les guerres au Libéria, où il a réussi donc à avoir des richesses à travers donc, l'exploitation du diamant, de l'or, etc. Donc, ça a créé aussi une idée que le Burkina était, un repère de bandits. Là.
Et c'est peut-être pour ça qu'en 2014, il y a eu un soulèvement
2015,
populaire.
2015, il y a eu un soulèvement populaire parce que après 25 ans, 28 ans, les jeunes qui n'avaient connu que Blaise Compaoré ne trouvaient pas leur place. Il fallait soit être dans le pouvoir ou être à côté de Blaise Compaoré pour pouvoir vivre au Burkina. Sinon, tout le reste, la misère, les difficultés dont vous avez parlé, comment ça se fait que de 87 à aujourd'hui, on n'est même pas capable aujourd'hui d'avoir un pays qui a un système de santé, un pays qui ne peut pas envoyer tous ses enfants à l'école, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Donc, on est resté, je dirais, pratiquement pareil. On a reculé sur plusieurs volets.
Que représente pour vous la prochaine pièce musicale de Nina Simone?
Nina Simone, c'est sûr que ça te permet de te dire tout le temps, oui, il y a des changements qui s'en viennent, et puis on peut être heureux donc, avec ces changements, même quand je sais que les Noirs américains, avec tout ce qu'ils ont vécu, avec tout ce qu'on a connu, qui sont capables donc de d'avoir des chants comme ça, moi je pense que c'est très inspirant.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Inspirant, en effet. Puis vous parliez des Noirs américains. On connaît tous l'histoire qui est survenue aux États-Unis par ce policier qui a maintenu son genou, qui a été condamné également. On a beaucoup de chemin encore à faire.
Oui, bon, ce qui me... Il y a un auteur américain, d'ailleurs, que j'ai lu, ça fait quelques années, et il y a une seule phrase qui m'est restée depuis dans la tête. Quand on est noir, on est un peu en prison.
Dans vous ressentez ça, vous?
Souvent. Parce que même quand on était jeune, face à un blanc, tout de suite, il y a quelque chose qui se passait. On a fouillé même dans les poubelles des blancs. On ne savait même pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, mais pourquoi. Donc, ça reste toujours. Cependant, bon, en vivant ici, tu commences à réfléchir là-dessus. Mais quand je regarde encore tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique, même quand je repars, le fait de savoir que je vis au Canada, les attitudes changent face aux Blancs, face... Donc, il reste encore beaucoup de choses. Comme les Autochtones disent ici, il y a une guérison à avoir, à mon avis, et il faudrait le travailler, ce que nous ne le faisons pas souvent.
Est-ce que vous, et je vous pose la question franchement, même si la question est peut-être douloureuse, mais est-ce qu'il vous arrive encore de ressentir une désapprobation par le regard des autres, parce que vous êtes noir?
Oui, je pourrais donner un exemple assez simple. Cet été, on a acheté un triplex dans... Hochelaga Maisonneuve. Les locataires qui sont là-dedans ne m'ont pas vu. Ou certains ne savaient pas c'est quoi. Et là, ma conjointe appelle quand on a eu la chance d'avoir le logement. Il pose des questions et on lui demande, mais qu'est-ce qu'il fait, Martin-Pierre? Où il a trouvé l'argent pour pouvoir acheter ça? Je dis, mais un blanc, est-ce qu'on aurait posé ces questions? Ça reste toujours quelque chose où, à partir du moment où tu es noir, il y a comme quelque chose qu'il faut aller gratter, qu'il faut savoir. C'est notre incapacité ou le fait de penser qu'on est incapable ressort souvent. Et on le voit même dans les quartiers, la police. Bon, je ne rentrerai pas dans les trucs de tous les jours, mais ça m'a frappé. Je me suis dit, hein, comment ça, ils veulent savoir d'où j'ai trouvé mes sous.
On va enchaîner avec une pièce musicale que vous nous proposez et qui, moi, a été une belle découverte. C'est une chanson qui parle de l'environnement, de la menace sur l'ours polaire, entre autres, à cause du réchauffement climatique. La pièce a pour titre tout simplement « L'ours » et c'est Christophe Maé et Youssou N'Dour qui l'interprètent.
Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bouillant comme l'équateur. Posé sur quelques mètres carrés, j'ai beau hurler, mais y'a personne pour m'aider. Laisse-moi seul, je te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Je suis qu'un taulard à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. Ça devient chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix des fois venues d'Afrique.
À tout le monde c'est des mains. Africa de clean polo. Oui, un petit temps dès que c'est une balle.
Seul sous ma grande ours. Aujourd'hui, je donne pas cher de ma peau à la bourse. Je me traîne une drôle d'allure. Je fais de la peine à voir dans ma fourrure. C'est plus le grand froid chez moi, mais y'a plus d'hiver. Et elle s'enlève pas, moi, ma poulaire. D'un jour, les seules ours blancs seront les peluches de vos enfants. Je crève de chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix des fois venues d'Afrique.
À tout le monde c'est des mains.
Bye.
seul de toute façon. Il n'y a plus la place sur mon glaçon.
C'est une belle chanson, ça.
Oui, tout à fait.
L'ours polaire qui, finalement, est en train de suffoquer. Qui...
J'espère qu'on va réussir à faire quelque chose comme humain et ne pas se laisser disparaître tout bêtement.
Est-ce que vous croyez qu'il est trop tard?
Je ne pense pas que ce soit trop tard. Je pense que nous sommes assez intelligents comme êtres humains, même si nous sommes très égoïstes et puis accrochés à nos privilèges, qu'on va avoir ce sursaut pour passer à autre chose un jour.
Espérons-le. Je veux juste boucler la boucle sur le Burkina, parce que je ne voudrais pas qu'on reste en plan par rapport à tout ce qu'on a évoqué. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'on appelait les Kogweogo.
Ah, les Kogweogo. Ben, en fait, actuellement, comme je dis, Blaise Compaoré est parti. Il a laissé un pays en déliquescence, appelons-le comme ça. Donc, l'armée n'est pas très forte. En même temps, il avait aussi des alliances avec certains qu'on appelle des djihadistes et tout ça. Parce que souvenez-vous, quand il y avait des enlèvements au nord, souvent il était comme celui qui médiait et qui arrivait donc à les libérer. C'est quoi ces liens qu'il avait? On ne sait pas. Donc quand lui il est parti, maintenant l'armée étant faible, les djihadistes qu'on présume sont en train de faire des attaques au Burkina. Et comment on fait pour se défendre? Il y a des civils qui s'organisent aujourd'hui pour dire ben, on va défendre nos quartiers, on va défendre notre pays, même s'ils ne sont pas bien formés, ils n'ont pas d'armes, etc. Donc c'est eux qu'on appelle
les... Mais ils ne le font pas dans un cadre légal.
Non, justement. Donc il y a des abus aussi qui peuvent être là-dedans. Il y a toutes sortes de choses. Comment tu t'arroges un pouvoir, tu n'es pas entraîné, tu n'es pas dans un cadre bien précis. Et qu'est-ce que ça va donner plus tard? Est-ce que, même si les djihadistes s'en vont, est-ce qu'on va pouvoir les démilitariser ce monde-là? Donc ça pose quand même un problème de déliquescence d'un État qui ne sait pas où aller et qui se confie à des choses qui ne sont pas organisées.
Quel portrait traceriez-vous du Burkina Faso maintenant avec tous ces groupes qui sont un peu anarchiques? Un président qui est là, est-ce qu'il le sera pendant longtemps? Les djihadistes qui mènent un peu partout dans le nord du pays, la situation n'est pas très rose.
Non, actuellement c'est très inquiétant au Burkina Faso et on ne sent pas que l'État est en maîtrise donc de quoi que ce soit. Donc, bien sûr, il y a la situation sécuritaire dont on a parlé tantôt, où ce n'est plus au nord, on le trouve à l'ouest, on le trouve à l'est, on le trouve aussi au sud. On a l'impression que le pays est en train de devenir plus petit parce que ça avance de chaque côté. Mm-hmm. Et on se confie à des gens qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas l'autorité pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est le premier élément, je dirais, très, très inquiétant au Burkina. Deuxième élément, c'est la situation, je dirais, économique. Aujourd'hui, j'ai parlé hier à deux de mes frères. Les denrées ont augmenté de prix. Bon, on prétend que c'est la COVID et tout ça. C'est pas vrai. Donc, il y a une augmentation importante donc, des prix. Ça fait que la pauvreté va encore augmenter. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, ça va être très, très difficile. Troisième élément, je dirais, il n'y a plus, comment on appelle ça, la décence de travailler pour le bien commun. Ceux qui vont en politique veulent remplir leur poche. Ceux qui vont en politique aujourd'hui essayent donc de tirer le maximum et le plus rapidement possible pour partir.
Donc l'instabilité politique est encore présente.
C'est ça. C'est très instable, à mon avis. Quand est-ce que ça va éclater, on ne sait pas. Cependant, avec ces trois ingrédients dont je viens de parler, oui, on est presque certain que ça peut éclater, ça va pas être...
Il y a eu beaucoup de... On parle de milliers de morts au cours des dernières années par ces attaques de djihadistes, par des luttes intestines également. Est-ce qu'on peut en voir ou on peut dessiner la fin de tout ça?
Ben, la fin, comme je dis, aujourd'hui, on ne peut pas compter sur l'État pour s'en sortir. Mais cependant, moi, je me dis, il y a beaucoup de jeunes au Burkina aujourd'hui dont il y a ce qu'on a appelé une société civile qui s'est organisée, qui a fait partie de Blaise Compaoré. Donc, cette même société civile, même si certains participent aujourd'hui au gouvernement, parce que c'est la voie la plus rapide pour s'enrichir, il reste encore certains à l'extérieur pour pouvoir donc continuer à critiquer. Il y a plusieurs médias aussi qui existent. Donc, je me dis, à partir de ces quelques éléments, il y a encore quelques espoirs, donc on pourrait attendre, donc, mais à court terme, je pense que ça risque d'être très difficile.
Et là, vous nous présentez Francis Cabrel?
Oui, Francis Cabrel. Pourquoi j'ai choisi Francis Cabrel? D'abord, bon, je l'écoutais quand j'étais au Burkina. La pièce Octobre que j'ai choisie me permet de dire, d'amener le fait qu'en vivant au Québec, c'est là qu'on voit quatre saisons bien marquées. Et oui, moi, ça continue à me fasciner, notamment en octobre, avec les changements de couleurs. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi celui-là, pour marquer le fait que, en vivant ici, c'est quatre temps très, très différents. Et on est ailleurs qu'au Burkina.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent, et des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Se souviennent, et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Octobre restera peut-être.
Octobre, Francis Cabrel, notre invité Martin-Pierre Nombré. On va enchaîner tout de suite, si vous voulez bien, Martin-Pierre, avec une autre pièce que vous nous proposez. Elle est de Salif Keïta. Un mot sur cette pièce.
Salif Keïta, bon, pourquoi j'ai choisi de ne pas bouger, c'est ça relate un peu ce que les Africains immigrés en France vivent la plupart du temps. Donc dans la pièce, il va dire, il va expliquer les militaires qui les poursuivent, les CRS qui les arrêtent, on prend l'avion, on les met là-dedans, ça brûle, on les chasse, et lui dit, nous n'allons pas bouger. Vous êtes chez nous, les Blancs sont partout, pourquoi nous, on ne peut pas rester là, nous, pas bouger. C'est un peu un statement, comme on dirait, pour dire, regardez, nous aussi on est libres, on veut aller là où on veut.
Salif Keïta, qu'on vient d'entendre, est un descendant direct du fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta, dit-on.
Oui,
c'est donc, ça. Donc, il a du sang princier.
Oui, un griot. Ça, je dirais, ce qui le distingue aussi, c'est que c'est un albinos.
Ah oui.
Alors qu'en Afrique, les albinos souffrent beaucoup, donc il a pris aussi cette cause qu'il défend.
Parce que le fait d'être albinos les place dans une catégorie à part, avec des pouvoirs, dit-on, maléfiques.
C'est ça. Et puis, des fois, on les élimine de façon très, très sauvage.
C'est assez terrible.
Oui. Donc, lui, il a pris la cause des albinos et puis il les défend. Il a plusieurs actions donc, qui mènent dans ce sens-là.
Et quand vous regardez, là, il y a maintenant 30 ans que vous êtes au Québec, vous êtes retourné à l'occasion au Burkina au cours de ces dernières années. C'est jamais facile pour vous de retourner là-bas.
Ben, c'est vrai que quand je retourne, les odeurs, la lumière, etc., c'est pratiquement le même, sauf la pollution qui a augmenté. Cependant, à partir du moment où on vit ici, c'est sûr qu'on va acquérir un certain nombre de façons de faire, de façons de réfléchir, qui des fois sont en contradiction ou même va confronter des façons de faire au Burkina. Donc,
comment vous perçoivent vos concitoyens burkinabés quand vous arrivez là-bas?
D'abord, j'en pense que je suis riche. Comme je vous parlais des France, de l'occidental dans notre vision africaine, on pense toujours qu'il a l'argent. Même le plus pauvre des Français, des Canadiens qui se présentera à côté d'un gars riche, on va le respecter. C'est fou, voilà pourquoi je dis. Il y a toujours quelque chose dans notre mentalité que je ne comprends pas encore. Mais, donc moi, quand je retourne là-bas, souvent je suis soit considéré comme un blanc, ou bien des fois comme un chauffeur, parce que c'est moi qui conduis, madame est à côté, elle est blanche, donc on vient s'adresser à moi. Monsieur le chauffeur, est-ce que... Bon, je joue le jeu, et puis je me dis, bon, c'est correct, ça me permet de me fondre un peu dans la masse.
Est-ce qu'à la limite, on pourrait vous percevoir comme un traître, d'avoir abandonné votre pays?
Oui, au début, ça a été à peu près comme ça, parce que, comme je disais, je faisais quand même partie d'un groupe d'intellectuels de gauche qui luttaient pour le Burkina. Donc, à partir du moment où tu abandonnes la lutte, c'est sûr que tu es vu comme quelqu'un qui est parti, qui n'a pas voulu continuer la lutte, en somme. Oui, ça, je l'ai perçu, parce que au début, je montais des projets, et même quand je les appelais, une fois, je suis allé rencontrer une centrale syndicale, et je sentais de la distance entre moi et eux, alors que quand j'étais là-bas, je faisais partie de l'activité, j'organisais le 1er mai avec tout le monde, j'étais dans l'école démocratique populaire où j'enseignais avec eux. Je faisais partie, mais le fait de repartir plus tard en vivant ici avait créé cette distance.
Césaria Evora?
Oui, Césaria Evora, pourquoi j'ai pris Sodade, c'est la tristesse. Le fait de partir, souvent, oui, on pense à notre pays, on est un peu triste. Donc c'est ça que ça nous évoque.
Mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Saudade, 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 disse minha terra, San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Se vou escrever, monta a escrever, se vou esquecer, monta a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, monta a escrever, se vou esquecer, monta a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 minha terra, San Inclau. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade.
Césaria Evora, surnommée la diva aux pieds nus parce qu'elle chantait pieds nus sur scène avec sa voix grave et douce, douce popularisée, la morna, cette musique caractéristique, comme le disait Martin-Pierre Nombré, qui fait peut-être un peu vivre la nostalgie du pays qu'on a quitté. Elle était originaire de Cap-Vert. Elle a conquis le monde avec sa façon de chanter. Elle est décédée en 2011. Heureusement, elle nous a laissé de nombreux enregistrements. Elle a été active pendant 54 ans quand même, à partir de 1957 jusqu'à ses derniers jours. Et elle a eu l'occasion également de se produire dans les plus grandes salles du monde. Vous avez quand même conservé, Martin Pierre, des amis au Burkina. Vous correspondez encore. Vous avez une grande quantité d'amis avec qui vous pouvez échanger.
Oui, je continue à échanger, mais ce n'est plus pareil. Après 30 ans, c'est sûr que la distance fait son effet. Donc, quand je repars aussi, les agendas ne sont plus les mêmes.
Non, voilà.
Les préoccupations ne sont plus les mêmes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas aussi... je dirais fort que pendant que j'étais là, mais cependant, j'en ai conservé plusieurs.
Est-ce que vous avez eu de la difficulté quand vous avez quitté en 91? Ça ne devait pas être un choix facile. On pense à son avenir, bien sûr, mais on pense aussi à ce qu'on laisse derrière, à cette lutte pour laquelle vous étiez engagé et que vous ne pourrez pas terminer.
Ben, moi, je n'ai pas décidé de quitter parce que je partais du Burkina pour repartir. Je suis venu ici pour 40 jours. Et c'est ici que j'ai décidé de rester parce que j'avais un fils. Et en le regardant, il avait 19 jours quand moi je suis arrivé. Et je me suis dit, mon Dieu, si je retourne, est-ce qu'il va me reconnaître? Comment je vais faire pour revenir souvent? Comment je vais le voir grandir? Donc, à partir de ce moment, c'est enclenché donc toute une réflexion et j'ai démissionné de mon travail à partir d'ici. Moi, j'avais encore mon contrat, j'étais en vacances. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de rester pour mon fils et de m'occuper de lui, il fallait que je change, je dirais, de façon de voir les choses, de ne pas regretter ce que j'ai quitté, parce que effectivement, si je repartais, j'étais bien. Mais commencer maintenant à dire comment je rentre ici, comment je m'organise pour arriver à créer une nouvelle vie.
Est-ce que c'est un peu ce que nous chante Kassav?
Kassav, c'est autre chose. Kassav, c'est le zouk, c'est le médicament, c'est notre médicament, dans le sens où les Africains aiment danser comme les gens des Caraïbes aussi. Donc le zouk, c'est le médicament que Kassav va nous chanter.
Et c'est le médicament que vous vous êtes un peu donné en aussi. Restant ici.
Voilà, tu danses et puis tu oublies des fois.
Sous-classe, c'est ça le médicament, nous n'y. Sous-classe, c'est ça le médicament, nous n'y. Sous-classe, c'est ça le médicament, nous n'y. maman plan là, m'poko saisi. Si jamais un jour m'en tombé malade, sous placé ça le médicament nous ni. 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 Sous-placé, c'est le médicament nouni. Sous-placé, c'est le médicament nouni.
Martin Pierre, vous êtes l'exemple de cet immigrant qui s'est fort bien intégré à la société québécoise. Vous vivez au Québec depuis maintenant 30 ans. Vous êtes maintenant le directeur du développement stratégique de la Caisse d'économie solidaire. Vous avez aussi contribué à différentes causes au plan de la solidarité. Vous avez été impliqué dans des organisations syndicales. Et vous êtes un Québécois à part entière, malgré le fait que vous disiez tantôt que parfois vous sentez le regard réprobateur de certains.
Oui, ben c'est sûr que moi je me sens Québécois. Même quand des jeunes de 20-25 ans me demandent d'où tu viens, je leur demande tu étais où en 91. J'étais là, tu n'étais pas encore né. Donc de ce point de vue, oui, je ne me sens pas exclu. Je suis Québécois, j'ai participé au référendum de 95. Je participe à la vie d'ici. Comme tu l'as dit, j'étais dans le mouvement syndical pendant 12 ans. J'ai été dans les corporations de développement économique communautaire, dans les quartiers du plateau, à Montréal. Je m'implique là où je peux, à la Ligue des droits, au Centre international solidarité ouvrière. J'ai été en alphabétisation.
Aussi.
Ben, au début, je me retrouvais à l'AB, à Laverlochère, en Abitibi, etc., pour prôner donc le développement de l'alphabétisation. Oui, je me sens Québécois et je continue à participer donc à cette vie.
Avec votre regard, rapidement, votre regard d'Africain, quelle analyse ou quelle est votre façon de voir le Québec d'aujourd'hui?
Le Québec d'aujourd'hui, je pense, il y a une bonne évolution intéressante que moi j'ai vécue parce que dans les années 90, par exemple, on ne parlait pas beaucoup de la cause autochtone. On ne parlait pas beaucoup d'intégration des minorités. Donc cette ouverture, je pense que le Québec gagne beaucoup là-dedans. Je pense aussi qu'au niveau québécois, ce qu'on a gagné en termes d'action sociale, les garderies, tout ça, pour moi, c'est des luttes intéressantes. Et moi, je viens du mouvement communautaire, du mouvement syndical. C'est des acquis qu'on trouve nulle part. Je travaille aujourd'hui dans une coopérative financière où que les gens viennent voir, que les gens veulent importer chez eux. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté au niveau québécois. Je pense que si on regarde le chemin des années 60 à aujourd'hui, je ne peux que dire que le Québec tire son chapeau. C'est vraiment un lieu où la créativité, le développement a un sens très, très clair.
Et vous souhaitez la même chose pour le Burkina Faso?
C'est certain. Il y a plusieurs éléments, je pense, qu'on pourrait amener au Burkina. Cependant, n'étant pas là-bas, je ne peux pas imposer. Il faut aussi que ça ait la couleur du milieu. Donc, si j'ai la chance de travailler avec d'autres personnes pour en parler, pour montrer ce qu'on fait ici, ce serait un bonheur pour moi.
Ben, merci beaucoup pour ce passage à l'émission au cours des deux dernières semaines. Ça a été fort instructif. On connaît maintenant un peu mieux votre pays d'origine. On comprend un peu mieux aussi la problématique du continent africain, si j'ose dire. On vous souhaite plein de succès dans vos fonctions actuelles au plan de ce développement durable.
Merci.
Et le temps de vous dire que l'émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre Degagné, Armand Dubois, la réalisation, l'animation. Et Martin Pierre, on va se quitter avec une pièce de l'inventeur de l'afrobeat, c'est-à-dire la fusion des éléments afro-américains de funk, de jazz, de musique d'Afrique occidentale, traditionnelle nigériane et de rythme yoruba. On parle de
Fela Ransom Kuti. J'ai choisi une pièce qui ne reflète pas tout à fait sa révolution, mais ça reflète quand même la dualité dans laquelle on vit. En même temps, il défendait les femmes et en même temps, il avait 24 femmes. Donc.
Alors, bon succès pour la suite des choses, Martin Pierre.
Merci beaucoup, Armand.
Au revoir.